onde poétique. Au festival Voix Vive à 7h. Bonjour, bonjour au public ici présent et bonjour aux auditrices et aux auditeurs des radios associatives Radio Aviva, Radio Languedoc, RGO, RPH Sud et FM+. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 juillet 2026 dans le cadre du Festival des Voix Vives de Sète. Pour rappel, ce festival a été fondé en 1988 par Maïté Vallès-Bled avec la volonté de faire entendre la parole poétique dans des lieux du quotidien. Il accueille chaque année des poètes de toutes les Méditerranées dans un esprit de partage, de paix et de dialogue. Fidèle à cette phrase de Paul Valéry, mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Ces trois quarts d'heure d'ondes poétiques enregistrées en public à la terrasse du Bar du Plateau nous offrent aujourd'hui un moment de rencontre avec deux poètes qui nous emmènent vers deux territoires, deux histoires et deux langues, mais qui partagent la même attention à la mémoire, à la transmission et à la liberté de la parole. Nous accueillons aujourd'hui Charles Watson, poète, nouvelliste haïtien, dont l'écriture est nourrie par la mémoire, la culture populaire et l'histoire de son pays, et Ala Mohammad, poète et réalisatrice syrienne. Ala a déjà publié 8 recueils en arabe et 2 en français, mais elle va nous en parler longuement. Ces deux voix venues de deux horizons, Haïti et la Syrie, vont vous permettre de questionner la poésie, la mémoire, les langues, les territoires et est-ce que la littérature peut encore nous dire du monde. Bienvenue à tous les deux.
Merci, merci pour l'invitation.
On va commencer par vous, Charles. Donc vous êtes un poète nouvelliste haïtien et pour parler un peu de vous, vous êtes né à la Croix des Bouquets en Haïti en 1980 dans une famille marquée par la culture populaire haïtienne. Vous êtes fils de Ougan, alors j'ai été voir ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était. Vous pouvez nous le dire peut-être ?
Oui, donc en fait, je dirai ça plus tard, donc je te laisse terminer la présentation et puis on va en parler longuement.
Donc juste le Ougan, c'est un prêtre vaudou.
Hein, oui,
voilà, je dévoile un peu. Et vous grandissez dans un univers où les traditions, les récits, les imaginaires populaires occupent une place importante. Après des études de lettres modernes à l'École normale supérieure, puis de sociologie et d'ethnologie, vous choisissez en 2010 de vous consacrer à l'écriture. Vous participez à la création des éditions Bas de Page et vous publiez chez Werber Charles pour que la Terre s'en souvienne en hommage aux disparus du séisme du 12 janvier 2010. D'ailleurs, 2010-2011, on en parlera, mais c'est des dates que vous avez un petit peu en commun.
En commun, tout à fait.
Professeur de lettres, animateur d'ateliers d'écriture et acteur de la vie culturelle haïtienne, vous vous installez à Paris en 2010. Et donc, votre parcours d'écrivain se construit ainsi entre Haïti et la France, entre la mémoire d'un pays, la transmission et le travail de la langue. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans ces ondes poétiques. Vous avez grandi donc dans cet univers profondément marqué par la culture populaire haïtienne. Quel est le rôle de cette culture dans votre écriture poétique, Watson ?
Je suis un fils d'un Ougan. J'ai grandi dans la culture haïtienne, dans la culture populaire, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le vaudou, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, tout ce qui est en rapport aussi aux contes et aux chants populaires. Donc voilà, je pense que cette littérature-là, en fait, ses référents à la fois culturels, politiques et esthétiques ont beaucoup marqué et ma poésie et aussi le récit, la fiction. Donc dès mon premier texte pour que la Terre s'en souvienne. Donc c'est un texte qui parle aussi des disparus du tremblement de terre en 2010, mais aussi c'est une façon pour moi de perdurer et donner la parole aux morts, donner la parole aux vivants aussi, puisque ceux qui sont présents, ceux qui sont encore vivants, n'avaient point de bouche pour dire la réalité, pour parler des atrocités ainsi que et des choses qui se passent dans le monde. Donc voilà, c'est la mission qui m'a été conférée, ou du moins j'ai embrassé à bras le corps cette réalité-là pour devenir poète, pour essayer aussi de parler de l'histoire d'Haïti, de porter ma voix, de dire aussi ce que je pense de la littérature. Je pense que la littérature peut nous apprendre beaucoup de choses et la parole poétique est aussi importante que l'histoire, que la mémoire, tout ça. Il faut aller chercher tout ça un peu loin pour donner au monde. Voilà.
La poésie, elle est rentrée quand dans votre vie?
Je pense que depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé à lire la poésie à l'âge de 14 ans, 15 ans, et à écrire aussi. Donc, comme tout bon poète, ou mauvais, je sais pas. Donc, voilà, on commence toujours avec la poésie classique. J'ai lu Rimbaud, Maldoror, j'ai lu aussi Verlaine et compagnie. Donc, c'est une tradition qu'on a eue depuis très longtemps. Donc, ma famille, une bonne partie, aime aussi la littérature. Donc, j'ai commencé très tôt à lire de la poésie et j'ai commencé à écrire très tôt aussi. Et j'ai commencé à publier en 2010. Donc, voilà. Donc, et depuis, je ne suis pas arrêté. Donc, j'arrête. Je ne pense pas que ça va arrêter.
Vous étudiez aussi les lettres modernes, la sociologie, l'ethnologie. Comment ces différentes disciplines influencent votre travail? D'abord, est-ce qu'elles influencent votre travail? Et si oui, comment?
Donc non, je pense pas que, et pour la sociologie c'est plutôt académique. Je pense pas que c'est la sociologie qui va me permettre de comprendre et la culture, comprendre profondément la culture haïtienne, puisque moi personnellement je suis né d'un fils de Ougan et j'ai grandi à la fois dans la capitale et dans les villes de province à Kouadébouké. Donc il y a une forme de connivence, double réalité, la ville, Port-au-Prince et la campagne. Donc moi, je pense que ce qui a nourri ma littérature, c'est cette expérience avec la campagne, avec les réalités populaires. Donc bon, oui, la sociologie a joué un rôle assez important dans la réflexion de ma poésie et de mes récits, mais je pense avant tout j'étais confronté à une réalité beaucoup plus frappante qui est celle de la campagne. Donc voilà, et c'est ça qui m'intéresse, pas forcément les trucs académiques.
Haïti, vu d'ici, c'est une terre de douleur, hein. Il y a beaucoup de drames, il y a eu des c'est le tonton Akoute, l'Haïti, non?
Bon, et il faut dire aujourd'hui le pays est contrôlé par les gangs. Donc ouais. Voilà, il y a pas de dictature depuis 86, et la dictature Duvalier. Oui, Duvalier, c'était en 86. Donc aujourd'hui on est passé du côté de dictature à soi-disant une démocratie emportée par les puissants, par l'Occident. C'est bon, en fait c'est pas vrai. On sait bien que il y a des pays qui sont chantres de la démocratie, alors que ils tuent, ils bombardent. Donc c'est le cas de la Syrie, de beaucoup de pays dans le monde. Donc voilà, mais Haïti est marqué par beaucoup de d'événements politiques, et par exemple la dictature, et aussi on a connu Aristide dans les années 90, et aujourd'hui le peuple haïtien assiste à une descente aux enfers, puisque on nous oublie. Et pratiquement, et c'est bien dommage que aujourd'hui on parle de démocratie alors que il y a que les gangs, il y a pas de gouvernement en Haïti, il y a rien. Donc le pays vit un chaos généralisé, presque de l'anarchie.
Vous arrivez donc en 2010, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Vous installez à Paris. Comment l'éloignement, quel regard du coup vous avez sur Haïti avec l'éloignement? Vous avez encore de la famille là-bas, je pense?
Pas beaucoup.
Mais comment garder la mémoire de tout en étant éloigné depuis 16 ans?
En fait, ce lien-là, c'est un peu difficile, parce que il est plus facile pour moi d'appeler ma mère, qui est aux États-Unis, mes sœurs, que d'appeler la famille en Haïti. Donc, j'en ai pas beaucoup. Bon, une bonne partie de ma famille sont à l'extérieur. Cette mémoire-là, je pense que... En fait, ce qui est drôle, c'est que je garde en moi les souvenirs de l'enfance. C'est l'enfance, c'est tout ce que j'ai vécu pendant de zéro, ou du moins de mon premier mois d'enfant jusqu'à aujourd'hui, en fait jusqu'à 2010. Donc, ce sont ces souvenirs-là que je garde. Bon, malheureusement, ce sont des souvenirs qui sont un peu faussés, je trouve. Parce que ce pays que je contemple, que je garde en moi, c'est pas ce pays-là qui existe réellement aujourd'hui. Donc voilà, et c'est ce qui est tragique quelque part. C'est pas pour donner une face, c'est pas pour dire que ce pays, c'est l'arrière-pays, ce pays qui s'efface. Il y a une sorte de souvenir d'un pays qui s'efface en moi. Donc c'est chaque jour, on dirait que je perds ce pays que je connais, donc ce pays d'où je viens. Donc c'est bien malheureux, mais heureusement il y a la littérature, il y a la poésie, il y a les chants populaires, donc ça me permet aussi de garder une partie de cette histoire-là.
Le mieux c'est de vous entendre. Vous avez choisi un texte pour nous peut-être.
Donc je vais lire un texte
qui fait partie de quel
paru de Constellation des ruines, mon dernier recueil, paru aux éditions Etalides. Je vais lire un texte sur Port-au-Prince. Me voici sur cette terre tarie, où ma peau taillée de pierre blanche poursuit sa danse frénétique des lois. Me voici avec ma bouche d'homme fleuve, hurlant mes derniers souffles, nos batailles et les corps tranchés à la lame de l'épée des Blancs. Me voici sur cette terre tarie de poussière vagabonde et de 2 siècles de combat. Dans l'aube noire et les chemins conquis, dire que notre histoire est aussi fragile que notre royaume intérieur. Je compte le temps des cyclones pareils à des cadavres sur le sol poussiéreux. Mes pieds sont fatigués de marcher et de parcourir cette terre tarie de poussière vagabonde. Ma bouche a soif de l'eau nouvelle. Rive hantée aux bras morts, danseur kleptomane aux pieds calleux. 2 siècles que nous hurlons de nos plaies vives et de fleuves noirs, entre l'épuisement et le chaos, entre ceux dont le rêve est tenté de l'histoire et des chaînes, entre le jour clair des bas-fonds, ma gorge asphyxiée du soleil pauvre. Frappez la tombe des morts, frappez les flammes sanglantes, que deviennent nos mémoires quand ta main, pleine de poussière, de briques chaudes et de gravats, que devient le temps des semailles où les pieds foulent la terre fatiguée des cris. Mes mains seront plus profondes que l'air chaud de ton haleine desséchée, mes nuits noires telles un bitume défoncé. Contre les foies, nous levons nos bras ferrés, nos mains de bâtisseurs de vents sauvages. Contre la parole promise, nous levons nos voix païennes, telle une armée indigène, telle le feu foudroyant des habitations. Ma peau mouillée de plaies béantes, comme le silence qui assiège nos villes. Nous saurons de quel été seront nos droits nus comme le sable du soir. J'appente mes festins nus, les rêves bariolés du chaos. Je compte le temps des rives et des songes qu'on porte tel un totem. Matériaux des vivants, tassés comme des briques, je sonde le vent imaginaire à travers les fissures.
On a le temps d'en avoir un autre. Et le plaisir, surtout, le temps, c'est une chose, le plaisir en est un autre.
Danse tes vagues et tes mains tentaculaires, fissures où germent les vents fous peuplés d'aurores. Que nul fleuve ne s'abat dans ma gorge d'ellipse. Les ombres au goût de ciel ancien, lueurs où surgissent nos pas et parmi les jours incandescents, te voilà dans la terre ouverte. Afani, j'écris sous la nuit à tes yeux d'alcôve et ta main stérile jette et rejette ta parole de puits. Tel un corps profond, ici rien n'est plus beau que tes breloques, le ciel happé qui te fait vivre. Entre les puits, le chaos de ta langue chante comme les routes épuisées. À Bertrand, que le poème nous apprenne à bâtir les villes silencieuses, éroder nos désirs farouches, qu'il nous exorcise du terreau noir sur nos corps, que le vent pourchasse nos rythmes, nos mythes, et bâillonne le vent et l'odeur du vieux monde, que ma gorge assoiffée d'alcool nous délivre de la chaleur du honfort.
Merci beaucoup, Watson Charles, merci. On entendra votre voix en fin d'émission encore.
Merci.
Vous me ferez quelques cadeaux en fin d'émission. Et nous allons quitter cette outre-Atlantique pour rejoindre une autre rive, celle de la Méditerranée, en ayant le plaisir de recevoir Alaa Mohammad. Bonjour Alaa.
Bonjour.
Et merci d'être arrivé un peu au débeauté, on va dire. Hein, voilà. Alaa, un petit portrait de vous. Vous êtes poète, réalisatrice. En 2011, vous prenez la route de l'exil et vous vivez maintenant en France, où vous publiez deux recueils, « Prête-moi une fenêtre » en 2018 et « Les hirondelles se sont envolées avant nous » en 2021, toutes les deux aux éditions Doucet.
Et je viens de sortir le dernier livre en avant-première dans le Festival de Sète, « Une rose sur la photo de famille » aux éditions Bruno Doucet aussi.
Et c'est dans ce livre d'ailleurs que vous nous lirez des textes tout à l'heure.
Voilà.
Votre création s'étend également au cinéma, avec la réalisation de documentaires, notamment sur le thème de la littérature en prison. Votre œuvre circule ainsi entre plusieurs formes artistiques, le cinéma, la littérature. Et c'est aujourd'hui pour votre poésie. Alors, est-ce que vous préférez qu'on vous dise poète, poétesse ? Si vous avez une préférence ?
Ça m'est égal.
Aucune importance. Et que nous souhaitons surtout vous entendre, une poète qui travaille la langue aussi, la mémoire, les territoires, les imaginaires. Et c'est aussi un plaisir de vous accueillir dans ces ondes poétiques. Les premiers recueils, les 8 premiers recueils sont en arabe.
J'ai publié en arabe 9 recueils de poésie. Oui, ils sont tous publiés en arabe. Et depuis mon arrivée en France au début de 2012, maintenant... J'ai sorti 3 recueils de poésie en bilingue arabe-français aux éditions Bruno Doucet, dont Une rose sur la photo de famille est le dernier.
Qu'est-ce que la langue, c'est votre langue natale, représente pour vous en matière poétique ? Parce que c'est pareil, écrire en 2 langues, c'est très intéressant de vous entendre là-dessus, parce que le son, des mots, tout est différent. Comment on passe d'une langue à l'autre, là ?
Moi, je n'écris pas en français. J'écris en arabe et je suis traduite en français. Je ne peux pas écrire en français. Et je ne veux pas quitter la langue arabe. J'aime beaucoup le mouvement de traduction. Je trouve que c'est un mouvement de dialogue, d'échange, de partage et de visite entre une langue et une autre, d'une culture et une autre. Et je trouve que c'est plus démocratique quand même quand on est étranger et quand on vient vers l'autre, qu'on soit traduit, mais qu'on arrive entièrement dans notre entité linguistique. Et là, moi, la langue arabe, pour moi, c'est chez moi. J'ai quitté ma maison, j'étais exilée, j'ai tout perdu. Et...
Vous êtes partie avec une valise, hein, si j'ai bien compris.
Je ne suis pas... Non, c'était une image que mon éditeur a...
C'est joli.
Non, c'est très joli. Toujours, il écrit le mot d'éditeur que Bruno Doucet offre à ses éditeurs, à ses auteurs. Vraiment, c'est très touchant parce qu'il lit beaucoup, il rentre dans notre histoire. Et puis, oui, c'est la langue arabe, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est une sorte d'identité que je partage avec le monde. Et quand vous êtes traduit, c'est ma certitude et c'est ma conviction qu'une identité, ce n'est pas enfermé. On n'a pas de frontières, on est ouvert. Et c'est un bonheur qu'on ouvre les fenêtres de cette langue, de ce chez-nous, vers l'autre, quand on est traduit. Et c'est ça. On n'a pas une identité personnelle enfermée. On est fait de toute l'identité sur cette terre.
En même temps, la poésie, on vient de le voir en écoutant la voix de Watson, c'est aussi un son, c'est une musicalité. Comment vous avez réagi quand vous avez pour la première fois entendu vos mots en français, où du coup, la musicalité même des mots n'était plus la même ?
J'ai entendu la langue française par la traduction de toute la poésie que j'ai lue, c'est-à-dire... dans le monde arabe, vous savez, dans le Xe siècle, il y avait une école de traduction très, très connue. On a traduit dans la langue arabe, la philosophie grecque, la médecine, tout. Donc, c'est pas la première fois que j'entends la langue arabe traduite en langue. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce voyage dans les langues. Et comme j'aime beaucoup le voyage spirituel ou physique ou dans intellectuel, ça fait ouvrir quand même l'esprit envers l'autre et ça nous mène là où on doit être, c'est-à-dire dialoguer avec l'autre et communiquer et partager avec l'autre. J'ai travaillé, j'ai un magnifique, ça, votre question, merci pour la question parce que ça me mène de parler de mon traducteur. J'ai un magnifique traducteur, un grand traducteur. Il a traduit beaucoup, beaucoup de poètes arabes que j'aime beaucoup. C'est Antoine Joquet. Il fait un travail que j'admire beaucoup. Il est très cultivé. Il connaît la culture arabe. Il est donc, quand il traduit, bah, il est muni avec, par toute cette provision de savoir, d'odeur, de mémoire, de tout. Et il traduit les choses. Et comme ça, moi, je trouve que mes poèmes respirent et ils existent. Ça serait jamais comme si ils sont comme ils sont dans la langue arabe, mais je suis assez satisfaite. Et Antoine même, puisque il est arabe et il est français, il dit la même chose. Et on est révisé à la fin. Mon éditeur Bruno Dusset, il lit les poèmes et à la fin, quand Bruno il dit, je n'ai aucune remarque, ça veut dire un poète français approuve que c'est écrit en français aussi. Donc,
vous imaginez être aussi peut-être traduite dans une autre langue encore?
Mais bien sûr, je suis traduite en anglais, en allemand, mais parce que je connais le français un peu, depuis mon arrivée, j'ai un peu travaillé sur la langue française, je peux sentir et connaître et j'ai beaucoup de liens avec la langue française. Je peux aimer mes poèmes en langue française plus et je sens mes poèmes en langue française. Oui.
On va les aimer aussi puisqu'on va vous écouter. Le mieux est de vous écouter.
Sourate al-A'ila. Anti tabta'idin wa nahnu narkudu khalfaki kay la nabqa wahidin. Dhilal al-hawri ala durubiki. طرف ثوبك المائل إلى الأرض المائل إلى الأرض كيف أصبح من المستحيل قطع المسافة بين البداية التي ترفل في الأفق والنهاية التي تميل إليك تتوغل في الرحيل ولا تتمهل وتبتعدين أكثر وأكثر وقد نتساقط في سبيلك وقد تكسرنا حروبك ماذا تظنين النافذة والباب والمرآة؟ نحن بيتك أيتها البلاد التي هجرتنا شقائق النعمان على منحدرات التلال دمنا أيتها البلاد التي تنزف فينا كما ينزف الربيع في الورد الجوري الأحمر أيتها البلاد التي جرحتنا وفي نوافذنا جرحت القمر أيتها البلاد التي تبتعد عنا وفي منازلها أودعنا طفولتنا تكبر تحت عينيها في ظلال السرو والحور والنارنج والفتنة والصنوبر وفي رائحة البخور والمسك والهيل والعنبر وأكثر. فوتو دو فامي. Tu t'éloignes et pour ne pas rester seul, nous courons derrière toi. Les ombres des peupliers sur ton chemin. L'orlet de ta robe effleure la terre. Comment se fait-il qu'il soit devenu impossible de franchir la distance entre le commencement qui s'attarde à l'horizon et la fin qui se penche vers toi dans l'impatience du départ. Tu t'éloignes toujours davantage. Peut-être tomberons-nous pour toi, peut-être tes guerres nous briseront-elles. Que crois-tu donc que soit la fenêtre, la porte, le miroir? C'est nous, nous qui sommes ta maison, au pays qui nous a abandonnés, les coquelicots sur les flancs des collines, notre sang. Ô pays, toi qui saignes en nous, comme saigne le printemps dans la rose rouge. Ô pays, toi qui t'éloignes de nous, dans tes demeures nous avons déposé notre enfance, qui a grandi sous tes yeux, parmi les ombres des cibrés, du peuplier, des brigadiers, du frangipanier, du pain, et dans les parfums d'encens, de musc, de cardamome, d'ambre, et plus encore.
Merci beaucoup, Ala. Et là, on comprend vraiment ce dont on parlait avant. C'est-à-dire que moi, la première en arabe, je me suis laissée bercer par la musicalité, parce que je ne comprenais pas du tout ce que vous disiez. Or, je suis aussi sensible à la version française, où là, ce n'est pas la même musicalité, mais on comprend. Et il y a l'émotion est aussi dans les mots. C'est formidable d'avoir les deux versions. Vous pouvez nous faire un autre cadeau? Merci.
Merci. Sourate al-A'ila. Fi al-tarikh sa'antami ila al-umuma. Fi al-jughrafia ila al-lugha. Fi al-thawrat ila al-bayt. Fi al-intisarat ila al-sadaqa. Fi al-hayat ila sabah al-khayr. Fi al-hubbi ila al-ughniya. وفي صلة الدم إلى الوردة الجورية. Photo de famille. Dans l'histoire, j'appartiendrai à la mer. Dans la géographie, à la langue. Dans les révolutions, à la maison. Dans les victoires, à l'amitié. Dans la vie, à la salutation. Dans l'amour, à la chanson. Et par le sang, à la rose de Damas.
Merci beaucoup. Merci. Il y a une histoire partagée entre vous deux, c'est l'histoire d'un pays, l'histoire douloureuse d'un pays et puis la mémoire de ces pays. Est-ce que vous pensez que le poète a une responsabilité particulière justement pour entretenir cette mémoire collective par la poésie? Alors en France, la poésie, évidemment, on n'a pas le droit de le dire aux voix vives parce que c'est le royaume de la poésie pour une semaine. Enfin, dans les cours, à l'école, la poésie est moins apprise qu'il y a même encore 20 ou 30 ans. Quel est le rôle du poète pour vous aujourd'hui dans le fait de continuer la mémoire, vous pour la Syrie et vous pour Haïti? Qui veut répondre à cette question?
Moi, je trouve que c'est un rôle historique. Ce n'est pas ni au poète qui existe dans un moment donné de sa vie et il est poète et il s'exprime, ni au philosophe, ni c'est tout un mouvement d'histoire. Là, je suis la fille du moment où je suis née. Je me trouve née dans un pays où... j'ai payé toute ma vie pour lutter contre les colons, contre les envahisseurs, contre les barbares, contre les occupants, de me trouver admirer énormément la culture de la démocratie. Et or, les pays de l'Occident, ils sont alliés avec les dictatures qui nous gouvernent. Et qu'il y a la démocratie, par exemple, en Amérique, et cette démocratie, elle est élue comme quelqu'un comme Trump. Et il y a les élections en Israël, on élu quelqu'un comme Netanyahu qui mène des guerres atroces contre les Palestiniens. Ils sont morts par des milliers. Mais de quel rôle on parle? C'est-à-dire, on est responsable de défendre la vie des gens. On est responsable de dire, mais arrêtez la mort, arrêtez. Je crois, on est tous, il n'y a pas de frontières. Depuis un moment, on dit, on veut, pour ça, j'ai parlé de cette identité qui me relie avec le monde. On lutte pour arrêter ces guerres, pour arrêter cette injustice, pour arrêter cette discrimination, pour arrêter ces génocides, pour que les gens puissent vivre en entière dignité et en liberté, et d'arrêter de dire libre, libre, libre comme un cliché. La liberté, c'est la vraie vie quotidienne et le respect entre les peuples et les humains, c'est-à-dire la souveraineté des pays. Là, en Syrie maintenant, l'armée israélienne, il est à 20 kilomètres de Damas. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir très proche. Ce matin, ils ont bombardé une village très antique au Liban. Là, on efface la culture d'un peuple. On efface une langue. Quand vous faites mourir un être humain, c'est vous effacer sa culture, c'est-à-dire sa mémoire, la culture. C'est-à-dire, on ne peut plus parler d'un rôle, mais on souffre jour et nuit. Comment, hein, cher ami, comment on peut alerter ce monde et comment envisager ces monstres qui gouvernent? Mon Dieu, on est faible. Mais en même temps, on est très, très honoré de défendre l'humanité à travers la langue. Parce que c'est ça qui lie l'humanité. Et on ne va jamais être armé autre qu'avec, que par la langue. C'est ça. Ce n'est pas un rôle, c'est une existence, c'est toute une existence.
Je vois Watson hocher la tête. Oui, 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 oui.
Oui, tout à fait. Et je pense que la seule chose qui peut contrecarrer la barbarie, c'est la parole. En fait, c'est la parole poétique, la parole du poète, mais aussi la langue, sa mémoire. Donc, je pense que ça, Allah a tout bien dit. Moi, je ne peux qu'ajouter que l'État aussi a un rôle à jouer dans la divulgation, en tout cas encourager les poètes à écrire les festivals, mais aussi des ouvrir beaucoup plus de maisons de poésie dans les villes, dans les campagnes, parce qu'il y a une sorte d'exode à travers la France et concernant la poésie. Moi, écoutez, tout ce que disait Allah, là, je suis vraiment admiratif devant ses propos. Donc, je ne fais que adhérer à ce qu'elle dit. Et effectivement, et je crois qu'on partage, et moi et Allah, on partage les mêmes aspirations. C'est-à-dire que le poète doit dire les atrocités dans le monde et aussi de dénoncer tout ça. Donc, le rôle du poète, c'est pas seulement écrire de la poésie et partir sur les routes pour parler de sa poésie, mais c'est aussi de dire ce qui se passe vraiment. Parce que aujourd'hui, il n'y a que nous qui sont là, les poètes bien sûr, pour parler, les écrivains, les artistes. Il n'y a que nous qui sont prêts à dire les choses. Nous, on a cette parole-là, même si les puissants ne veulent pas l'entendre, ils sont peut-être bouchés, si j'ose dire. Donc voilà, mais on doit pas cesser. Donc tous mes respects et pour Allah, qui a bellement dit, bellement expliqué et la rage des poètes. C'est aussi une manifestation que je porte aussi.
C'est vrai que souvent, même à chaque fois, on voit quand même que, et on le voit aussi en France dans les mairies qui ont basculé, c'est quand même à la culture qu'on s'attaque en premier, et la poésie fait aussi partie de la culture.
Oui, parce qu'on a une arme assez destructrice, une arme assez puissante. Donc le poète, on connaît qu'il y a beaucoup dans l'histoire littéraire de la France et même dans l'histoire tout court. Et ce sont les poètes qui sont en avant. Prenons le cas de Victor Hugo. Donc Victor Hugo a connu l'exil. Il y a aussi Agrippa d'Aubigné au XVIe siècle. Il y a aussi, plus proche de nous, aux Antilles, Aimé Césaire. Il y a aussi Glissant. Donc ce sont les poètes qui sont les premiers à dire la barbarie, à dénoncer la barbarie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on attaque à la culture. C'est parce qu'on sait que nous sommes... dans l'histoire de l'humanité, les poètes, les philosophes sont toujours là. Sont toujours là pour dénoncer des choses. Donc surtout les poètes. Donc c'est pour ça que on attaque à la culture, parce qu'on veut pas que les poètes expriment leurs pensées, expriment de dire ce qu'on pense des politiques.
Avant de réécouter vos voix et vos textes,
J'aimerais qu'on se quitte sur un mot, sur l'importance justement d'être là aujourd'hui aux Voix Vives, où il y a un échange extrêmement fort autour de la Méditerranée, autour des textes, tous ces échanges, tous ces croisements que vous faites en vous rencontrant les uns les autres. Quand on lit le programme des Voix Vives, c'est incroyable le nombre d'auteurs qui sont là, de poètes qui sont là. Évidemment, il y a tous les échanges qui se passent sur la place du Pouffre. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est important pour l'un et l'autre d'y être. Et puis après, on réécoute vos voix. Mais j'aimerais que vous me répondiez à cette question sur les Voix Vives.
Je trouve que c'est une activité, c'est une manifestation qu'on doit encourager. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de poètes. Donc, je la connais depuis quelques années. Et pour moi, c'est assez important d'être là, d'être ici. Parce que on voit qu'il y a une sorte de mouvement entre poètes, une sorte de dialogue entre nous. Donc, je trouve que c'est très important. Et c'est bien malheureux que ce festival, aujourd'hui, l'État n'assiste pas à cette éclosion-là. Il manque de budget. Donc, les politiques ne s'intéressent pas au festival de poésie, de littérature. Donc, pour moi, c'est important et je suis très content d'être ici. Et c'est un festival à encourager et à soutenir.
Ah là, je vous laisse le mot de ça et puis vous pourrez lire un texte juste après, avant de vous quitter.
Oui, je crois, ce qui est le plus profond, comme il a dit mon camarade haïtien, le plus beau, c'est que les poètes défendent le festival. Nous sommes là pour défendre le festival. Et avec des budgets très, très réduits, mais avec nos moyens encore plus réduits que le budget du festival, on essaye de soutenir le festival et d'être là. Voilà, on a tout dit.
Non, on aimerait un dernier poème avant que vous nous quittiez.
Ouais. أن تصل إلى الموت في مجزرة هذا ليس موتك هذا هو الموت نريد موتنا موت المواطن فردا فردا من سرق موتنا من تحت مخداتنا من تحت أقدامنا من سرق الموت من سرق الموت من المستشفيات من حوادث السير من الشيخوخة من الحزن من حوادث الغرق من انتحار العشاق من الفراق الطويل من الغياب من الغربة من الفرح هذا الموت مجزرة مجزرة ليس موتنا ليس هو الموت نريد موتنا فردا 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 دمعة 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 دمعة.
Comme nous sommes un petit peu pressés, on va se quitter là-dessus. Et puis je vous remercie tous les deux d'être venus. On va juste faire une petite opération avec la sonorisation et Watson, vous pourrez lire un texte. D'accord. Tout de suite après. Merci. Merci beaucoup, Alain. En tout cas, merci, Watson Charles, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, on se revoit pendant encore une journée, je crois, aux Voix Vives. Merci à tous les deux.
Merci.
Et je vous refais ce petit cadeau supplémentaire juste après notre rendez-vous. Et toujours dans le cadre des Voix Vives, je redonne le micro à Watson Charles qui va nous lire un de ses textes.
Nous sondons les mers comme un as translucide où tout devient mortel. Telle une prière, nous évoquons la chute des comètes où toute chose blasphémée redevient toi-même. Loin des fleurs jetées sur les tombeaux, je réinvente la courbe du temps et mon corps n'appartient qu'à toi. Dure est la chrysalide qui regarde mes yeux incrédules. Comment vivre? Comment revivre les siècles enfuis dans le mutisme des ombres, palpant nos gorges, battant nos reins à grands coups de symphonie? Le jour glisse sur ton visage, comme le vent qui frappe à la fenêtre. Partout nos corps tremblent des fois, de tristesse, de solitude. Partout, le jour fait halte sous les péristyles où dorment les enfants au ventre ballonné, comme ceux des déracinés, comme ceux qui meurent sous les bombes en Syrie, comme ceux qui n'ont que de la poussière pour nourriture. Enfin, Que reste-t-il des bateaux transportant ses corps vers le nouveau monde, ses mains palpant des bois humides, dans l'obscurité aveuglante de la cale?
Merci pour ce cadeau final, Watson. Et puis, belle fin de salon, de festival. Et à très bientôt. Au revoir.
Onde poétique.
Au festival Voix Vive, à 7h.